dans la chaleur d'une nuit de juin. Ils seront 5. Et vous, vous serez des milliers à venir partager l'événement de l'année.
Vous avez vu que j'ai pris l'adresse du site internet que vous venez de lancer. Je le redonne pour ceux qui ne l'auraient pas vu, www.radiofrac.com. Et j'espère que le site du ministère de la Culture sera aussi branché que le vôtre.
Bonne aventure. Bayonne 2005, les géants de l'angoisse. Retrouvez des invités en vacances, des chroniques à faire peur. Bref, toute l'actualité de cet été. Bonne aventure. L'émission en direct, un mercredi sur deux, de 20h à 21h, sur www.radiofrac.com. Ça vous va?
Antenne, donc bonsoir et bienvenue à l'écoute de Bonne Aventure, donc la première émission en direct de Radio Frac depuis le musée Bonnat, un mercredi sur deux tous les 15 jours de 20h à 21h. Bonne Aventure, une émission réalisée par les 5, le club des 5 des radiofraquistes avec en tête Joachim, Stéphane, François, qui n'est pas là mais qu'on embrasse, Cécile et Cyril. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Cyril.
Et bonsoir à tous. Donc toujours des chroniques à faire peur et des invités en vacances, Cécile.
Alors, au sommaire de Bonne Aventure ce soir, nous débuterons l'heure avec la bonne attitude, une méthode en 7 leçons ou comment devenir un bon basque.
Cyril. Un bon basque.
Oui, c'est ça. Alors nous poursuivrons avec un docu-fiction politico-artistique dans lequel on sent monter l'angoisse quand c'est l'été. Ensuite, sur le plateau de notre studio en direct du musée Bonnat, nous recevrons l'artiste Olga Kiseleva et le documentariste Gaël Mokaer qui réalise actuellement un film sur le cinéma La Talente, cinéma dans lequel aura lieu, on le rappelle, ce samedi soir 9 juillet, une programmation proposée par le Frac Aquitaine dans le cadre de C'est l'été. Enfin, nous terminerons l'émission avec Bonnat Summer, notre carte postale sonore de nos vacances à Bayonne. Alors, nous allons commencer tout de suite cette émission avec Bonne Attitude, ou comment recevoir le meilleur jambon de Bayonne.
Qu'est-ce qui fait la renommée, la particularité du jambon de Bayonne?
Déjà, le jambon de Bayonne, c'est un AOC. Là aussi, c'est une appellation, vous le savez. Hein. Bon, nous, on fait donc le jambon donc, maison. Moi, je n'adhère pas à cette AOC. On fait du cochon fermier, avec la société Arcadie. C'est un four. Donc, à partir de là, après, moi, j'ai la petite confection que l'on se transmet de famille en enfin, dans la famille, quoi, je veux dire. Et qui reste du très, très bon jambon. Et apprécié que j'envoie, que j'expédie un petit peu partout. Quoi. Je vends principalement mes jambons sur le continent, quoi. Je les envoie en coulisses, ils m'ont recommandé. C'est une denrée qui est séchée, donc qui voyage très très bien. Ou des ossées et en mise sous vide. Ou alors comme ça entier, et avec un bon emballage. Et voilà, en 48 heures, en coulisses, ils m'ont recommandé. Moi, il s'arrange avec le client. Voilà, la personne est là en 48 heures devant la porte. Et c'est un aliment qui voyage très très bien.
Voilà. C'est vraiment le meilleur.
Notre jambon, c'est le meilleur. Il faut le dire à tout le monde. Qualité-prix, c'est le meilleur.
Brand new break.
De retour sur dans Bonaventure, au micro et en direct donc de ce deuxième numéro de Bonaventure. Nous recevons l'artiste Olga Kisleva en résidence au domaine d'Abadia. Bonsoir.
Bonsoir.
How are you?
Really fine.
Just very fine.
Really, really fine. Ah,
c'est ça. Et puis le journaliste documentariste Gaël Moukaer, qui donc, comme l'a dit Cécile dans le déroulé du sommaire, est en train de tourner actuellement un film documentaire sur le cinéma L'Atalante à Bayonne. Bonsoir Gaël.
Bonsoir.
Voilà, donc avant de commencer notre discussion ensemble, nous allons écouter un petit documentaire, donc un docu-fiction politico-artistique, comme nous disions, Peur sur la ville. Alors, c'est une docu-fiction qui a été réalisée lors du vernissage de C'est l'été à Bayonne. La prise de son a été donc faite ce jour-là.
Le 21 juin dernier.
Le 21 juin dernier, voilà. Alors, avec par ordre d'apparition dans ce docu-fiction,
Alain
dans
Delon.
Le rôle de...
Non, pas tout à fait.
Comment? Non, il n'y a pas Alain Delon, mais c'est, par c'est contre, ce attention, attention, dans le rôle de l'adjoint à la culture, nous avons Bernard Massé, et dans le rôle du directeur du FRAC Aquitaine, nous avons Hervé Legros. C'est parti.
Voilà. Hervé Legros.
Nous nous rendons bien compte que vous voulez nous faire envisager l'art en dehors de certaines convenances, que vous voulez nous faire dépasser les peurs enfouies vis-à-vis de la chose artistique, comme vous le dites si bien. Je voudrais remercier notre conservateur du musée Bonnard, Vincent Dubourg, qui a piloté aux côtés d'Hervé Lemont l'intervention du FRAC avec le talent et la compétence qu'on lui connaît.
Cyril, nous sommes à l'antenne.
Nous sommes à l'antenne, donc. Allô. Une fiction donc, qui raconte un peu comment parfois l'art contemporain peut provoquer certaines peurs ou certaines angoisses à l'échelle d'une ville. Alors ici, Bonaventure, pour ce deuxième numéro, nous sommes toujours donc au musée Bonnat. Musée Bonnat comme dans le rôle de l'adjoint à la culture Bernard Massé le disait, tout le premier étage a été décroché. Donc il y a deux expositions d'art contemporain. Et l'art contemporain sera un peu le fil rouge de... Voilà,
Non, je vois Gaël Mocquer que vous nous montrez quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au musée Bonnat. Vous n'avez pas bien révisé, mais ça, nous allons vous le demander, hein, justement.
Parfaitement, puisque vous rentrez en piste de vous-même. C'est la première question que vous étiez destinée, simplement, assez directe. Quel rapport entretenez-vous avec... avec l'art contemporain, est-ce que c'est l'indifférence totale ou une énorme curiosité?
Pour être franc, une énorme curiosité. J'ai allumé le micro. Pour être franc, une énorme curiosité, non, je pense pas. En fait, là, j'ai fait un tour, je suis venu une demi-heure en avance pour voir un peu ce qu'il y avait au musée Bonnat. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui me parle en général dans l'art contemporain, quoi. Il y a très peu de choses qui m'interpellent, que ce soit des sculptures, des peintures. Enfin, la peinture plus que la sculpture ou que des objets très bizarres. Voilà, mais ça me laisse assez perplexe, je pense, comme pas mal de monde, parce que peut-être que j'ai pas les clés aussi pour comprendre ça. Et clairement, ça me fait chier, quoi. Aller voir faire la démarche d'aller voir des sculptures d'artistes ou des vidéos ou des peintures, des expositions, c'est un truc qui... ça, je préfère aller voir un film, quoi. Après, c'est les goûts de chacun, hein, mais je ferai jamais la démarche, ouais. Je pense que c'est moins dur, ouais. Ouais, moi je suis un gros feignant, de toute façon, donc moi j'en fais, mieux je me porte.
Olga Kisleva, vous en tant qu'artiste, comment vous réagissez à ce genre de mise à distance, par exemple, ou de l'art contemporain par...
Oui, le mot feignant, je le trouve assez juste. Ouais, on peut ne pas aller voir les expositions, on peut aussi ne pas aller voir les films, ne pas lire les livres, pourquoi pas. Pour moi, c'est assez important, l'art contemporain, non pas seulement parce que je suis artiste et c'est ce que je fais, mais aussi je trouve que c'est un mode de recherche, en fait, l'art, que je trouve très précise, en fait, aussi précise que la recherche scientifique. Et souvent, il est un peu moins ludique qu'en film. Elle utilise peut-être moins de détails, moins de paroles, ce qui lui donne cette précision. Voilà.
Alors justement, donc vous avez commencé a priori comme une artiste qui aurait pu intéresser Gaël Mocquer, c'est-à-dire artiste peintre. Mais vous avez entre-temps réalisé une thèse, réalisé une thèse sur la réception du langage de l'art auprès du grand public, et vous avez glissé progressivement vers vers une production qui concerne une production artistique qui concerne l'internet. Est-ce que justement c'est réfléchir à la manière dont les œuvres peuvent être reçues par le grand public qui vous a fait glisser entre autres vers un médium comme Internet très très utilisé qui je sais pas en termes de visibilité en termes de langage.
Il faut dire que je ne travaille pas que avec Internet. Mais effectivement, il y a eu cette démarche-là. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé par faire une école de beaux-arts de Saint-Pétersbourg, hein, où à l'époque, on avait le choix d'être peintre ou sculpteur. Hein, vidéo, ordinateur, tout ça n'existait pas, donc automatiquement, il fallait choisir. Choisi peintre. Voilà, mais... après j'ai senti une certaine limite de ce qui se pratiquait donc à l'époque dans le milieu artistique de Saint-Pétersbourg, ce qui m'a amené de faire cette thèse qui était oui effectivement sur les langages de l'art.
Quel genre de limite?
Limite, c'est que, oui, c'est une bonne question, c'est que les œuvres qui étaient exposées dans des expositions des artistes donc à Saint-Pétersbourg ont été reçues de point de vue purement esthétique. Quand je dis esthétique, c'était carrément c'est beau, ça c'est plus beau, la dernière fois c'était moins beau. Si un artiste essayait de transmettre un message dans le travail qu'il faisait, le message passait inaperçu parce que les gens ils ne parlaient pas le langage de peinture, hein, donc ils ne savaient pas chercher le message. Et du coup, la plupart des artistes, ils se contentaient de ne pas mettre un message, mais juste de faire beau. D'ailleurs, Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui incite à faire beau. C'est une ville qui est restée un petit peu dans le 18e siècle, encore. Mmh. Qui passe du 18e à 21e directement et vice-versa.
C'est ce qui vous avait amené vers ce doctorat, alors, vers cette thèse.
Voilà, et en fait, moi je suis originaire d'une famille scientifique. Ils sont tous scientifiques dans la famille, et dans la famille, quand on a une question, on fait une thèse pour trouver une réponse. Du coup, c'était naturel, faire une thèse. Donc j'ai commencé à faire sur les langages de l'art. Et très vite, j'ai eu l'impression que, effectivement, c'était bénéfique. C'était une voie juste pour... une œuvre d'art de parler le langage qui est compris par le public, c'est-à-dire effectivement faciliter à un spectateur entrer dans l'œuvre, même au plus feignant. Et comme le langage d'aujourd'hui, c'est le langage de l'écran, donc j'y conclu dans ma thèse que l'art le plus progressif, c'est celui qui arrive par le biais de l'écran, donc vidéo, l'écran de télé, ou l'écran de projection, ou de plus en plus l'écran d'ordinateur. Mais bon, ça c'était une conclusion de la thèse qui s'appelait d'ailleurs à la fin, qui s'appelait plus les langages de l'art, ça s'appelait cyberart comme l'art de dialogue, quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose de très pragmatique dans cette conclusion, dans ce choix.
C'est une thèse, c'est un petit peu comme presque comme une étude de marché, hein, quand, quand on fait une thèse comme ça, en analysant le présent, ce qui nous entoure. Mais je dois dire que ça ne m'a pas incité quand même de me contenter de ce langage uniquement celui de l'écran, celui de Internet. Parce que en fait, j'ai effectivement, j'ai commencé à travailler. J'ai donné tous mes pinceaux, toutes mes toiles, et je me suis concentrée sur les œuvres qui passaient par l'écran. Et puis petit à petit, j'ai senti qu'en fait, essentiel, c'était peut-être pas le médium qu'on utilise. C'est plutôt la question qu'on pose. Et aussi la façon dont on sait impliquer le spectateur. Et en fait, je pense que la clé, c'est ça, c'est il faut que le spectateur il se sente impliqué dans l'œuvre, qu'elle soit interactive, mais dans le meilleur sens du terme, pas seulement qu'on puisse cliquer dedans, mais qu'on a envie d'y entrer, qu'on a envie d'entrer en dialogue. Donc le mot dialogue reste d'actualité après, que ça se passe à travers Internet ou à travers la peinture, finalement, peu importe.
Et le transmettre un message ou développer un langage, le rendre lisible et visible, par exemple, c'est justement l'écran, l'Internet, c'est pas le meilleur moyen, le plus démocratique, le plus accessible, le plus compris de tous, le plus...
Ça dépend pourquoi. Parfois c'est parfait, Internet, d'ailleurs, assez souvent, c'est un outil puissant, presque en prothèse, je dirais. Mais parfois... on a besoin aussi d'intervenir dans l'espace public autrement que sur un écran d'ordinateur.
Alors, vous êtes en ce moment, on le disait tout à l'heure, en résidence au domaine Abadien, résidence d'artiste. Et bien, justement, après avoir parlé un peu de toutes les réflexions que vous avez menées sur l'art, le langage de l'art, sur quoi vous travaillez en ce moment et dans le cadre de cette résidence ?
Je travaille sur un projet qui s'appelle Landstream, donc land comme landscape et stream comme flou. Donc il s'agit d'une série de paysages où on ne voit pas le relief ou les arbres ou les bâtiments qu'on verrait normalement dans un paysage, mais uniquement les flous qui traversent ces paysages-là.
Voilà. Et qu'est-ce que ça donne alors ?
Ça donne des images assez surprenantes. En fait, les paysages, on a du mal à les identifier. C'est assez, comment dire, c'est presque romantique, je dirais.
Presque romantique.
C'est une autre réalité qu'on sent à peine, je dirais. On commence à la sentir, mais à peine. Et quand on la voit, je pense que c'est important de prendre conscience de ce dans quoi on évolue sans se rendre compte.
Et de quelle manière allez-vous choisir, par exemple, de montrer... c'est Landstream. Est-ce qu'ils seront diffusés sur des écrans, sur l'internet, sur dans l'espace, dans un espace clos ou public?
En fait, au départ, donc on prend des mesures de la présence des ondes avec les scientifiques. Ils me donnent une description mathématique de ces ondes. Donc là, on a des chiffres. Ensuite, ces chiffres sont transformés en graphiques.
C'est extrêmement rigoureux.
Oui, j'ai l'habitude de faire des thèses, je suis désolée. Et ensuite, donc, ces graphiques, elles peuvent être imprimées, dessinées, recopiées ou bien projetées sur des écrans d'ordinateur. Je pense que pour la première présentation au public, j'ai envie de ne pas les montrer à travers les écrans d'ordinateur, mais prendre une forme plus classique, justement, une forme de paysage. Je suis en train de peindre les paysages, faire des peintures, où donc on voit les flux.
Et dans une idée aussi de peut-être, vous allez me dire si je me trompe carrément, mais dans le message à délivrer et peut-être à faire passer, une manière de le clarifier ou de le livrer plus clairement. Plus juste,
je pense que qu'en voyant ces tableaux en format de paysage en voyant les titres qui sont des paysages datés et minutés presque, parce que c'est toujours le moment où on a pris les mesures, ça devrait être à la fois lisible et aussi émotionnellement assez fort pour les gens qui viendront le voir. Ben, j'espère y arriver.
Alors, justement, cette justesse, Cécile.
Oui, on va peut-être parler un petit peu de la manifestation dans laquelle on se situe. On vient de le dire, vous avez réfléchi à la manière dont le spectateur reçoit les œuvres, dont le spectateur plus précisément s'implique, est impliqué par les œuvres. Alors, au Carré Bonnat, dans le cadre de C'est l'été, les gens de l'angoisse, il y a actuellement une exposition qui s'appelle Les choses à leur place, dont vous nous montriez l'affiche tout à l'heure, Gaël Mocker. Alors, cette exposition consiste en un dispositif un peu particulier. C'est une œuvre qui est exposée pendant 15 jours et qui est donc changée tous les 15 jours pendant l'été, la durée de l'été, les 3 mois. Sur une scène, donc une œuvre seule sur une scène qui est montrée comme ça, éclairée et parfois illustrée par un document sonore, enfin illustrée ou accompagnée d'un document sonore.
Voilà.
Alors aujourd'hui c'est le jour du changement de l'œuvre. Une œuvre de Georges Mathieu était là depuis 15 jours. Un triptyque de Ours Louty l'a remplacée. Aujourd'hui même, bon, je suppose que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'aller voir la nouvelle œuvre, mais en revanche, vous avez dû voir celle de Georges Mathieu. Olga Kiseleva, qu'est-ce que vous avez pensé de ce face-à-face, justement, avec l'œuvre et de ce dispositif ?
Je pense que au départ, j'aime bien l'idée de face-à-face, de faire de façon pour que l'œuvre ne puisse pas passer inaperçue, pour que le spectateur ne puisse pas passer devant. Après, je pense que façon de mettre l'œuvre sur une scène, ça ne correspond peut-être pas à toutes les œuvres. Et il y a certaines qui sont peut-être un peu écrasés par le dispositif.
Fragile,
oui, peut-être. Et j'aurais vu quelque chose qui serait plus interactif peut-être sur la scène.
Est-ce que vous avez noté, par exemple, que le visiteur a quand même la possibilité de faire le tour? C'est-à-dire de contourner l'œuvre.
Oui.
Ce qui est, jamais le cas en l'occurrence, quasiment jamais le cas pour une œuvre. Enfin, ce qui, et puis par ailleurs, n'est pas une interaction non plus, mais.
Oui, non, j'ai pensé à l'interaction de l'œuvre elle-même, parce que celle que j'ai vue, c'était une œuvre en deux dimensions. Et en fait, ce que j'aurais fait peut-être, c'est de laisser le spectateur de pas seulement tourner autour, mais aussi s'approcher, toucher, jouer avec. Voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que moi-même, j'ai eu une expérience comme ça. J'avais présenté une sculpture sur une scène. C'était une sculpture interactive qui était en vélo. En vélo assez complexe, sur lequel on pouvait monter, on pouvait essayer de faire un tour avec un ami exprès sur scène pour limiter l'espace. Et c'était vraiment assez fort parce que c'est.
On pouvait monter sur ce vélo.
Oui, on pouvait. En fait, c'est un vélo sur lequel on ne peut pas monter par définition. Ça s'appelle Power Bike, c'est pour les arrivistes, pour les gens qui veulent tout et tout de suite. Et donc, plus vite ils essaient de monter, plus vite le vélo recule. Mais en tout cas, on les laissait interagir ce vélo en sachant que, en faisant cette interaction, ils étaient conscients du risque de tomber du scène avec le vélo.
Parce que là, en l'occurrence, justement, la scène, je pense, dans le dispositif du Carré Bonnat, joue son rôle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est inaccessible, sur laquelle on ne monte pas, qui est là pour que l'œuvre vienne se montrer et soit regardée. Donc, ça peut être perçu, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, comme une mise à distance également.
Comme une mise à distance. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de distance déjà dans les musées avec les œuvres.
Là, par exemple, est-ce que cette distance, ce face-à-face proposé au travers du dispositif, est-ce que selon vous, ça désacralise paradoxalement l'œuvre ?
Non, moi je n'ai pas ressenti de distance. Au contraire, j'ai trouvé que la façon dont l'œuvre a été mise en valeur, c'était plus une invitation de s'approcher, d'entrer dedans, même en restant à distance, mais le fait que la peinture était seule, avec un éclairage dirigé, pour moi, ça faisait pas de distance. En plus, donc le fait qu'on puisse la voir de l'autre côté, je ne sais pas, je suppose que les choses qui étaient posées derrière, ça, c'était une installation aussi, ce n'était pas par hasard.
Les choses qui sont posées derrière,
les rouleaux,
ce sont les œuvres qui attendent dans les coulisses, c'est-à-dire les œuvres qui sont exposées tout le reste de l'été. Voilà.
Je n'ai pas ressenti ça comme distance, mais plus comme invitation de justement d'aller dans les coulisses, d'aller dans la cuisine, d'être impliqué. Mais j'aurais voulu être impliqué encore plus.
Alors Gaëlle Mocaer, malgré votre emploi du temps extrêmement chargé, avez-vous pu aller faire un tour dans ce fameux Carré Bonnat ?
Bah oui, puisque vous me l'avez demandé, donc je suis venu une demi-heure en avance et puis.
Quel bon élève.
Non, mais en même temps, je le fais pas souvent, donc ça m'a fait plaisir de le faire.
Alors vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez totalement hermétique à l'art contemporain.
Oui, j'ai beaucoup de respect en fait pour tous les gens qui font de la création de toute manière, qui partent de rien et qui arrivent à créer quelque chose ou à exprimer des sentiments ou à faire passer des messages, etc. Mais en même temps, moi, je ne ressens rien, c'est-à-dire que moi j'ai fait le tour tout à l'heure pendant un petit quart d'heure devant toutes les œuvres qui sont ici et je suis pas je me sens pas bien, quoi. Je trouve que ça manque d'humanité en général, quoi. Je trouve que c'est pas chaleureux, je trouve que ça me parle pas, je trouve que je sais pas, il manque de la musique, il manque un truc, il manque de la chaleur, il manque quelque chose, quoi.
Et justement au Carré Bonnat,
pour moi c'est très ça m'agresse beaucoup, quoi. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre, mais en même temps je comprends pas déjà les gens par exemple qui restent pendant un quart d'heure devant une œuvre ou devant un tableau pour l'analyser, etc. C'est très bien, mais c'est une démarche que je n'arrive pas à faire, quoi. C'est que
vous disiez en introduction que vous n'aviez pas les clés.
Je pense que j'ai pas les clés, oui, parce que là c'est peut-être dû à mon éducation qui est très simple mais voilà, ça me parle pas, quoi. Y a rien, ça ne m'évoque rien, quoi.
Vous êtes un spectateur passif ?
Ah oui, en général, oui.
Face à l'art contemporain ?
Face à l'art contemporain.
Mais ce dispositif pour.
Enfin, passif. Non, j'essaye forcément, comme tout le monde. Déjà, quelqu'un qui fait la démarche d'aller voir de l'art contemporain, moi, il me semble pas que ce soit. très courant, mais je me trompe peut-être, mais il me semble pas que, en général, les gens se déplacent facilement pour voir de l'art contemporain. Mmh. Donc déjà, les gens qui font la démarche d'aller voir de l'art contemporain, je trouve que c'est bien. Mais après, s'ils s'arrêtent en face de l'œuvre, qui reste 10 secondes et qui se disent bon, bah, d'accord, et qui s'en vont, je pense qu'il y a un problème, quoi. À mon avis, il y a un vrai problème. Alors, je sais pas comment. Je fréquente pas assez, je pense, le milieu de l'art contemporain, mais je trouve que ça manque d'humanité en général.
Mais cette exposition au Musée Bonnat et au Carré Bonnat également, mmh. avec le principe de la scène, n'a rien ébranlé de vos...
Non, j'ai fait beaucoup de vernissages. Bon, je connais deux ou trois artistes contemporains avec qui je travaille, pour qui j'ai fait des vidéos, des choses comme ça. Mais voilà, moi, je leur donne un coup de main, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, généralement. Enfin, dans l'art contemporain, moi, je vois comment ils travaillent avec le peu de moyens, etc., avec le monde d'idées qu'ils ont. Donc, on se débrouille toujours pour faire quelque chose. Mais moi, je suis qu'un exécutant, et voilà, donc je leur tourne des vidéos, etc. Mais je vais pas plus loin que ça, quoi. Et je veux surtout pas rentrer dans le jeu de l'analyse, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'analyser, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire des choses, j'ai pas envie de les analyser, de les réfléchir, etc. Il y a assez de gens comme ça, enfin, qui sont là pour ça, quoi. Surtout dans le milieu de l'art contemporain ou de l'art en général, il y a assez de gens qui sont là pour analyser ce que vous faites, quoi. Donc
voilà. Ça peut simplement.
Donc moi, je me pose pas de questions, quoi.
Une gêne.
Ah non, pas du tout.
Ça
non,
peut
non,
simplement
non.
vous déranger.
Non, mais après, ça, c'est un truc.
Enfin, ça peut s'arrêter là, quoi. Je veux dire, oui, c'est le rapport que vous pouvez avoir à une œuvre.
Après, je peux m'arrêter devant une œuvre parce qu'elle m'interpelle comme tout le monde. Mais voilà, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose, enfin, ou d'en avoir retiré quelque chose, quoi. Et c'est là que moi, j'ai un problème, je pense, ou que beaucoup de gens ont un problème. C'est-à-dire que vous allez voir un film, vous allez voir, je sais pas. Une peinture, enfin quelque chose qui parle aux gens, ils vont partir, voilà, ils vont avoir un sentiment, ils vont avoir l'impression d'avoir compris quelque chose, etc. Et il y a beaucoup d'œuvres contemporaines qui sont tellement, enfin moi il y a des trucs complètement farfelus, quoi. Donc, et moi, je ne comprends pas, c'est-à-dire que je n'arrive pas à saisir le sens. Alors, est-ce qu'il faut saisir le sens? C'est un autre débat. Est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que voilà, peut-être que je suis un peu trop bête, je pense, pour comprendre l'art aussi, donc je sais pas.
N'avez-vous pas fait une thèse à ce sujet, Olga Kislyva?
En fait, je pense qu'en dehors problème de absence d'ouverture, il y a aussi un problème de différence. Je voulais faire en direct la thèse. La différence d'approche. Ça m'est arrivé de travailler sur le même sujet avec un ami proche qui faisait des documentaires. Parce que je fais souvent les œuvres sur les sujets assez politiques. Et donc, lui aussi, il faisait des documentaires sur les mêmes sujets politiques. On est parti, par exemple, ensemble à Kosovo. Et en fait, on s'en est aperçu que lui, il se sentait obligé de raconter le problème du début à la fin, tout raconter, donner tous les données, et ensuite dire voilà, la solution, ça va être ça, point. Tandis que un artiste, il se contente plutôt à pointer le problème, à le rendre visible, et ensuite il laisse le spectateur de avec le sentiment que ça lui donne, et trouver sa propre solution. Et c'est quelque part pour ça que mon collègue, mon ami journaliste, il trouvait que mon travail n'était pas fini, et moi je trouvais que le sien, il n'avait pas de sens non plus, parce qu'on ne peut pas donner une solution toute prête. Donc il y a un certain antagonisme peut-être entre les deux professions.
Vous qui êtes monteur, Gaël Mocaire, de formation.
Moi je trouve que la réflexion, elle est assez intéressante, mais en même temps c'est très réducteur, quoi. Il n'y a pas d'absence d'ouverture. Les gens ne sont, on peut pas dire qu'il y a une absence d'ouverture.
Ça ou... c'est personnel. C'est les gens qui sont fainéants. Eux, ils ont absence d'ouverture. Eh oui, mais c'est pas le cas de tous les cinéastes.
Non, c'est pas le cas de tous les cinéastes. Mais en même temps. En même temps, en tenant toujours cette position-là, en fait, de dire voilà, nous on crée et on ne donne pas forcément de solution aux gens, eh ben, les gens ne viennent pas voir vos œuvres. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est une espèce de refus de dialogue par l'œuvre elle-même. Donc, ça n'a pas de sens, quoi.
Effectivement, c'est plus difficile de dialoguer avec une œuvre d'art où la solution n'est pas proposée, où on propose à spectateur de la trouver soi-même, que juste consommer un récit avec une solution qui est donnée à la fin. C'est plus difficile.
Vous avez une vision très réductrice du documentaire en général et du cinéma en général. Le cinéma, c'est autre chose que de la consommation. C'est-à-dire qu'on peut aussi placer aussi les gens qui vont voir des œuvres d'art contemporain comme des consommateurs de vos œuvres. Ça vous ferait pas plaisir.
Non, mais en revanche, peut-être on peut dire, Gaël Mauguer, que c'est une question que vous posez. Vous, en tant que monteur, vous êtes documentariste et vous êtes monteur de formation, donc dans le montage, dans le processus de montage, vous posez la question de la manière dont vous dirigez le point de vue, plus ou
bien
moins,
sûr,
dont vous laissez les questions ouvertes
sûr, hein.
ou pas.
Bien sûr, moi je donne jamais de solution, moi au contraire. Moi, plus les gens interprètent, mieux c'est. Quoi. Moi je ne dis pas, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est les journalistes qui font ça, moi je ne suis pas journaliste. Quoi. Donc voilà. Après, moi, je me pose beaucoup de questions, comme je pense que vous posez des questions sur les gens qui viennent voir les œuvres ou pas dans les musées, ou dans les expositions, ou dans les vernissages. C'est essayer de comprendre pourquoi des gens viennent ou ne viennent pas. Enfin, pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas, en fait. C'est pourquoi des gens s'intéressent. Pourquoi il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'intéressent à la peinture ou à la sculpture. Dans des domaines assez classiques, et pourquoi ils ne s'y intéressent pas dès qu'on touche au milieu de l'art contemporain, pourquoi l'art contemporain continue à avoir une image assez élitiste, voilà. Alors c'est peut-être aussi sa vertu, quoi. C'est le fait que ce soit toujours à l'avant-garde, etc., et que voilà, les simples d'esprit comme moi n'arrivent pas à comprendre il
paraît que les avant-gardes sont mortes. Mais ça pose quand même la question du spectateur. Je pense une question qui vous.
Moi, je me pose la question du spectateur qui va au cinéma pour savoir pourquoi il va voir tel film et pas. Et je pense que les artistes se posent la même question. Pourquoi les gens viennent quand ils ont un galeriste et qu'ils font une exposition, pourquoi une exposition va marcher et les gens vont venir et s'y intéresser, et pourquoi une autre exposition ne marchera pas, quoi, et pourquoi leur travail n'intéressera personne.
Vous parliez de la distance et du chemin à faire, justement, face à ce que l'on regarde quand on est spectateur. Effectivement, peut-être que dans l'art contemporain, où les vocabulaires sont moins évidents, peut-être, à appréhender, moins...
C'est barbare.
Ouais.
C'est barbare, je suis désolé, c'est barbare.
Ouais.
Moi, j'ai deux ou trois copains qui sont artistes, enfin qui font de l'art contemporain. Quand ils me parlent, je leur dis, mais je comprends rien, quoi. Je comprends rien à ce que tu me dis. Alors, essaye de m'expliquer clairement ou ne m'explique pas à ce moment-là. Mais si tu ne m'expliques pas, je n'aurais pas envie d'en savoir plus, quoi. Donc, je ferai pas la démarche d'aller voir pourquoi tu fais ça.
Et alors, avant d'aller plus loin, peut-être dans ce qui vous intéresse tous les deux, c'est-à-dire la position du spectateur et la réception de ce que vous donnez à voir et la manière dont ça peut être justement regardé et reçu, on va écouter un morceau de musique, ce qu'on fait en radio, puisqu'on est dans les conditions du direct, et puis après on reviendra sur vous, Gaël Mauguer, afin de vous nous parliez de votre documentaire.
C'est de la musique basque.
Je ne crois pas.
Non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la bossa.
Il y a je ne sais quoi de monotone dans vos yeux. Il y a je ne sais quoi qui tourbillonne. C'est quoi dans votre voix de dangereux? Ah, si vous m'aimiez un peu. Belle Andalou, aussi joli maillot qui montera du cou, qui s'agrippe à votre peau. Thank you.
c'est possible. Voilà, donc c'est la troisième fois que je refais le retour sur le plateau. Cette fois, c'est la bonne. J'ai l'impression d'être Daniel Gilbert. Alors, voilà, donc nous sommes... n'est-ce pas ? Je lui ressemble. Donc, nous sommes de retour en direct du Musée Bonnat, en compagnie de Gaël Mocquer et de Olga Kiseleva. Alors, après ce débat un peu animé sur l'art contemporain, son accessibilité ou non... entre Gaël, qui est documentariste, et Olga, qui est artiste. On va peut-être parler de votre travail, Gaël Mocquer. Vous réalisez donc actuellement un documentaire sur le cinéma d'art et d'essai La Talente.
Oui.
Dont le président est Jean-Pierre Saint-Pic, que j'ai rencontré, figurez-vous, dans le cadre du Festival de La Rochelle.
Jean-Pierre, sacré Jean-Pierre. Ouais.
Voilà, ce week-end.
Donc c'est le président de l'association qui gère le cinéma, en fait, La Talente.
Voilà, et qui resitue un peu le cinéma dans la ville et qui nous parle de l'importance que ça a pour lui, l'existence de tel cinéma. Mmh. C'est parti.
Vas-y, Jean-Pierre.
Alors, Jean-Pierre Saint-Pic, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes président de l'association qui préside aux destinées du cinéma La Talente à Bayonne. Alors, peut-être, avant qu'on entame la conversation, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu un bref historique de ce cinéma La Talente et comment il se situe et s'inscrit dans le cœur de Bayonne ?
Eh bien, écoutez, donc effectivement, je suis président d'une association qui s'appelle Cinéma et Culture, qui gère trois salles de cinéma, donc La Talente et l'autre cinéma. Donc Atlante, c'est la salle historique qui existe depuis 1989, ce qui se situe dans le plus vieux cinéma d'Aquitaine. Donc c'est au départ un cinéma de quartier dans le quartier Saint-Esprit, qui est un quartier populaire à Bayonne, qui est le quartier de la gare. Et donc effectivement, Atlante a toujours été une salle d'arrêt d'essai, en prise directe, j'allais dire, avec l'actualité cinématographique. Donc Atlante ne s'est jamais défini comme un ciné-club. C'est un film qui répercute les sorties nationales, qui répercute un petit peu l'actualité du cinéma indépendant aujourd'hui en France. Et l'événement majeur dans l'évolution de cette association, ça a été donc la création de deux nouvelles salles qui ont ouvert donc en octobre 2004, qui s'appellent l'autre cinéma. Les deux nouvelles salles sont situées à 4 minutes à pied sur les quais de la Dour, donc à 4 minutes de la Talente, et donc face sur les quais de la Dour, face à la ville, face à la cathédrale, sur l'un des plus beaux sites de Bayonne. Donc nous gérons aujourd'hui trois salles de cinéma, donc cela nous donne une amplitude plus importante et la possibilité de décliner comme ça les films majeurs. On a une proposition qui regroupe aujourd'hui quasiment, qui englobe la grande majorité de la proposition à réessayer en France aujourd'hui.
Et pour un cinéma comme le vôtre, il y a une idée comme ça de prendre en charge le patrimoine cinématographique actuel ?
Ah, mais totalement, si tu veux. J'allais dire que le jour où les salles comme nous n'existeront plus, certains films n'existeront plus. C'est-à-dire que les films qui sortent sur... Il y a de plus en plus de tirages aujourd'hui, mais enfin, les films qui sortent sur 20, 40, 80 copies France, c'est notre responsabilité, j'allais dire notre spécificité de les diffuser. Le jour où les salles comme nous n'existeront plus, ces films-là n'existeront plus. Donc effectivement, le patrimoine, c'est-à-dire la diversité du cinéma, elle passe par des salles comme les nôtres. Absolument. On est là pour diffuser les films à moindre tirage. On est là, c'est parce que les salles comme les nôtres existent, que les spectateurs pourront voir les films de Claire Denis, tu vois, les films qui sortent comme ça, très peu de copies. Et voilà.
Radio Break. Il est bien votre jingle,
n'est-ce pas ? Il est à propos surtout. Alors, Gaël Mocquer, ce documentaire sur La Talente, qu'est-ce qu'il raconte ?
Oh là là, ça va être très sérieux ça, c'est mal. C'est mal quand c'est très sérieux. Non, c'est un fils.
J'adore ça quand c'est très sérieux.
C'était pas la bonne question ?
Si, si.
Ah bon, d'accord. Et donc, faut pas que.
Non, je ne me suis pas mélangé dans mes fiches.
Non, c'est plutôt moi qui me promène dans mes réponses. C'est un film qui va raconter en fait la vie d'un cinéma de quartier, donc La Talente, qui va raconter en fait, toute la vie qu'il peut y avoir dans un cinéma, donc tout ce que ça génère comme lien social, culturel. Et c'est vraiment un film sur un lieu et des personnages, quoi. C'est-à-dire que le lieu est très important parce qu'il existe depuis le début du siècle et. C'est un lieu qui a une histoire très chargée. Et les personnages, il y a Ramucho qui est le directeur de La Talente. Pour ceux qui vont à La Talente, qui connaissent un peu le personnage, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il y a voilà, chaque personnage en fait a... J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'écoute, c'est quand même extraordinaire ça.
Ramunshu est un personnage extraordinaire. Bon, alors.
Mais enfin, c'est quand même fou cette histoire. Vous trouvez ça quand mais...
Oui, votre réponse, bah,
elle est. Non, mais elle est, non, mais elle est chiante ma réponse. Avait... C'est pour ça que je vous ai dit, on va rentrer dans un truc chiant explicatif, ça sert à rien quoi. Donc voilà, c'est un film qui va être assez barré. C'est un documentaire sur la vie de la Talente. Voilà, mais avec ma touche personnelle et ma vision de la Talente quoi. Ou la vision en général d'un cinéma d'art et d'essai aujourd'hui en France. Pour faire court. Assez barré. Pas conventionnel,
alors, et au travers, justement, alors, en évitant. Ou de quelle manière?
Pas conventionnel, dans le sens où le documentaire, en France, en général, les films documentaires sont des. Le milieu documentaire est un milieu très très sérieux, où les gens se prennent très au sérieux, etc. Et voilà, et moi j'ai envie de faire du documentaire, plutôt du divertissement, où les gens s'amusent, quoi. Donc j'ai envie que ce sera un documentaire avec du contenu, parce que le fait de s'amuser, ça ne veut pas dire plus de sens. Mais je vais essayer de mettre aussi des choses en scène, de manière à ce que les gens passent un bon moment en allant voir le film. Voilà.
Alors un documentaire divertissant. Alors du point de vue de la forme, hier on s'est rencontrés pour préparer cette émission, on a parlé longuement.
Exactement.
C'était assez passionnant, et donc ne faites pas de résistance à nous parler de ce que vous faites. Donc, voilà, et à partager à de nombreux auditeurs. Documentaire
d'ailleurs, les auditeurs, là, je sais pas s'ils m'entendent, mais il y a un standard téléphonique. Hein, il faut faire le 05 59 48 22 37 et vous pouvez nous joindre à tout moment sur l'émission. Quoi.
Donc hier, en préparant cette émission, vous parliez de la forme et de l'alternance, quelque chose qui n'est pas anodin, l'alternance de plan séquence. Donc de prise de vue que vous êtes en train de réaliser, puisque le tournage va durer
à peu près un an.
Voilà.
Donc je vais alterner en fait je vais tourner le documentaire d'abord pendant un an, c'est-à-dire que je tourne en fait à Bayonne pendant un mois, je remonte à Paris monter le film, je tourne et je monte le film au fur et à mesure voilà de l'année, et à la fin de l'année, donc au bout d'un an, je tournerai des scènes de fiction, donc j'écrirai des scènes de fiction que je viendrai insérer dans le documentaire. Mais voilà, il faut les écrire, il faut qu'elles soient justifiées par rapport aux propos du film. Et donc on ne les tournera que l'année prochaine. Et oui, il y a des scènes un peu qui risquent de sortir du commun. Parce que par exemple, donc c'est ce que je vous disais hier, c'est que je vais accrocher 150 moutons, je pense à la Talente, sur les fauteuils pour projeter un film à des moutons. Voilà, donc voilà, je pense que ça renvoie le spectateur à sa propre image. Et je trouve que c'est intéressant. Après j'amène pas de solution, voilà. C'est ça qui est dramatique, quoi, à un moment donné. Quoi.
Mais cette présence des moutons, c'est de l'ordre de la performance.
Ouais, de la performance ou de la perversion, je sais pas.
Et le spectateur, pour vous, est, puisque c'est quand même littéralement ce que ce plan séquence dira, est passif nécessairement?
Ah non, pas du tout. Mais je trouve que c'est juste. À un moment donné, je trouve que c'est bien de mettre les spectateurs face à des questions et face à leur rôle dans le milieu, enfin face à leur rôle dans le milieu du cinéma et à leur démarche, quoi, parce que c'est eux qui font. C'est-à-dire que nous, on peut faire naître un film, mais c'est eux qui le font vivre, quoi. Donc c'est bien à un moment donné. C'est bien à un moment donné qu'ils voient un gros plan avec un œil super ovin et super bête d'un mouton qui est en train de regarder un film et qui se pose eux-mêmes la question de savoir si ils sont ce mouton ou pas. Alors, forcément, moi, je pousse la démarche un peu loin, parce que faire ça dans un cinéma comme La Talente, qui est un cinéma réessai, qui est un cinéma, entre guillemets, où il y a une programmation assez pointue, c'est un côté pervers. Mais en même temps, ça m'éclate, et moi il faut que je m'amuse. C'est-à-dire que, à partir du moment où je m'amuse plus...
Oui, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu paradoxal, quoi. C'est bien un cinéma, enfin, ou un type de cinéma dans lequel on... A priori, le spectateur est quand même un tout petit peu préservé de ce genre de point de vue qu'on pourrait avoir sur
c'est
lui.
Exactement,
c'est-à-dire
c'est la Talente.
C'est là, quoi.
Voilà.
C'est ici.
Ah, sinon, c'est complètement paradoxal.
Oui, il suffirait juste mettre vos moutons dans les fauteuils dans multiplex, non? Ce serait plus efficace.
Oui, mais moi, je cherche pas l'efficacité, quoi.
Bah, ça serait plus juste.
Eh oui, mais c'est ouais, mais juste par rapport
et
à.
Et vous
toi,
allez vous amuser.
C'est ça le problème, je
par
cherche pas.
Au
moi je raconte la vie d'un talent, je raconte pas la vie d'un multiplex. Mais je trouve que. Bon, moi j'aime bien de temps en temps provoquer un peu les choses, ou les gens, ou les situations. Et je trouve que c'est bien d'avoir des petits électrochocs comme ça. Et à la rigueur, ça n'a pas de sens, je m'en fous, quoi. Moi je m'amuse, quoi. Après, les gens ils viennent voir le film, ils viennent pas, je m'en fous. Je m'amuse, quoi. Moi ce que je veux, c'est m'amuser. Donc voilà, on n'a jamais vu des moutons regarder un film
le sens il semble clair, c'est les moutons, la passivité des spectateurs, c'est ce contre quoi se bat un cinéma comme celui-là.
Non, mais pas forcément, parce que ça c'est une séquence dans le film, donc ça passe en gros un message qui est plutôt voilà de cet ordre-là, mais il y a d'autres séquences dans le film qui passent le message inverse. Et toute l'idée c'est voilà, c'est que on n'a pas forcément de réponse, quoi, mais il y aura d'autres séquences, peut-être avec des moutons d'ailleurs.
Il y a également, vous disiez hier, donc, dans ce long entretien, qu'il y aurait un moment avec des spectateurs nus.
Oui, ça aussi, je pense que je vais faire venir 200 personnes complètement nues à l'Atalante à un moment donné. En plus, c'est l'été, là, il y a plein de nudistes, il y a plein de plages naturistes, etc.
Quelle est cette métaphore ?
Mais je sais pas, moi je trouve ça esthétiquement. Absurde déjà, de que les gens aillent nus au cinéma, je trouve ça génial. Et en même temps, oui, ça pose forcément la question des armes qu'on a face à une image, ou des clés qu'on a pour comprendre une image. Est-ce que les gens ils sont nus face à une image, quoi? Est-ce qu'ils ont les moyens de se défendre si en face d'eux ils ont un film de Michael Moore qui leur dit ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils boivent un peu les films comme du petit lait, ou est-ce qu'ils ont un sens critique à un moment donné, quoi? Voilà, mais bon, ça c'est des séquences. Voilà, en fait, le truc c'est que les séquences, je les écris au fur et à mesure du tournage, j'ai les idées au fur et à mesure, elles évoluent. Donc la séquence des moutons, je sais pas encore, le message il va peut-être changer. Je vais peut-être mettre un mouton noir en plein milieu des 150 moutons blancs en posant une autre question, la place de la RSC en France, je sais pas. Ça évolue, je veux dire, moi je travaille vraiment au feeling, voilà, donc voilà, moi je m'amuse et puis ensuite je trouve les explications parce qu'il faut forcément donner les explications, donc on les trouve après, quoi.
D'accord. Et hier, vous nous parliez de l'importance de l'implantation du cinéma L'Atalante, donc dans le quartier où il est, où il se trouve, et la manière dont ça crée du lien. C'est comme ça que vous avez commencé d'ailleurs votre réponse sur le film que vous étiez en train de tourner, sur la notion de lien social que ça crée.
C'est essentiel.
Cette présence-là. De quelle manière ?
Mais de quelle manière ? Tout simplement parce que L'Atalante, bon. Il y a plusieurs cinémas récits comme L'Atalante en France, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des tavernes comme ça. Et pour moi, le lien social dans un quartier comme le quartier Saint-Esprit, ou comme dans beaucoup de quartiers en fait dans les villes, pour moi, le lien social il se crée dans les bars, quoi. C'est-à-dire que le bar c'est un élément, c'est indispensable. Je veux dire, il n'y a plus de bar, c'est la mort, quoi. Donc moi, il faut qu'il y ait un bar, un comptoir, un café, des terrasses, des tables, etc. Le lien social dans les quartiers, il s'est toujours créé autour des bars. Les pêcheurs, quand ils reviennent à Marseille, c'est autour des bars. En Bretagne, pareil. Les paysans, c'est pareil. Ils se retrouvent dans les bars. Tout le lien social, tout le tissu social se crée dans les endroits comme ça. Et voilà. Et le fait qu'il y ait une taverne à L'Atalante permet de continuer à créer ce lien social, à permettre des rencontres de gens qui, a priori, ne devraient pas se rencontrer. C'est-à-dire qu'à L'Atalante, il y a des gens qui viennent, qui sont médecins, qui exercent des professions libérales, mais il y a aussi tous les ouvriers. Il y a aussi, voilà. Et donc, ça permet à plusieurs couches sociales de se rencontrer. Ça permet plein de choses, quoi. Et tous les cinémas ne le font pas, mais moi je fais un film sur L'Atalante justement parce que ce cinéma-là permet ça, quoi, permet ce lien social, cette vie de quartier. Enfin, moi je trouve ça génial, quoi. La coiffeuse qui vient, que tout le monde se connaît, etc. Et c'est indispensable parce que pour le bien-être de tout le monde, je pense, pour que tout le monde ait aussi des repères et aussi voilà, c'est important de connaître son voisin, c'est important. De connaître l'autre, quoi, en général. Et donc voilà, tout le film tourne autour de ça, et il est hors de question que j'aille filmer la salle. C'est-à-dire que moi tout mon film, je fais des images dans la taverne, à l'extérieur, dans les coulisses, dans la cabine de projection, dans les bureaux, mais jamais je ne filmerai l'écran de cinéma ou les spectateurs assis. Parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt, quoi. Voir des gens assis en train de regarder un film, ça n'a absolument aucun intérêt.
C'est entre eux et le film.
Pardon ?
C'est entre eux et le film.
Oui, ce qui se passe entre eux et le film, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très, est quasiment impossible à mettre déjà en image. Déjà en mots, c'est très dur. En termes d'image, c'est encore plus dur. Et c'est un moment, voilà, qui leur appartient et qui moi m'intéresse pas. Moi, j'arrête ma caméra dès qu'ils rentrent dans la salle, quoi. Par contre, on comprend ce qu'ils ont vécu au moment où ils sortent, au moment où, par exemple, ils s'installent au comptoir et où ils discutent entre eux du film qu'ils ont vu, ou alors Mais enfin, c'est pas un film qui parle non plus que du cinéma. Il peut y avoir deux personnes âgées qui viennent d'aller à la boucherie acheter un truc et qui viennent boire un café ou un thé à la Talente et qui parlent de leur petit-fils, de leur famille, etc. C'est un film sur la vie en général, quoi.
À propos de liens sociaux, vous, donc avant de, d'entamer la, le tournage de ce documentaire, vous, vous avez réalisé 5 documentaires pour la télévision.
Ouais.
Dont 2 dans mes souvenirs de conversation qui datent d'hier à Madagascar, ouais. Peut-être davantage, ouais. Mais on ne s'est pas tout dit hier. Et vous nous expliquiez que vous aviez organisé une projection,
ouais.
Une projection
à Madagascar,
sur,
ouais.
Voilà,
ouais.
Qui avait réuni plus de 3500 personnes.
Ouais.
Donc ce type d'action là.
Ouais.
Où l'alcool est absent et pas nécessairement autour d'un bar ou enfin
l'alcool coule à flot.
Coule à flot. Ouais. Mais l'action culturelle, par exemple, comme
la, non, mais
comme
la
ciment social.
Ouais.
Est-ce que vous croyez à sa vertu ou à son efficacité?
Oui, oui, oui. Oui, je pense que ouais, je pense que on n'est pas encore complètement foutu, quoi. Mais la question, elle a plusieurs sens. Donc, s'il y a moyen d'avoir une précision sur ta question, s'il te plaît.
Alors, je la recentre sur, puisque le fil rouge de cette émission, c'est l'art contemporain.
Voilà,
ça va vous faire plaisir. Je vais la recentrer sur C'est l'été, les gens de l'angoisse. Plusieurs enjeux dans cette manifestation, dont effectivement celui de créer du lien. Et de désacraliser ou l'art et de l'amener aussi auprès de gens qui ne font pas nécessairement la démarche de venir vers lui. Donc je pense, sans entrer dans les détails, mais je pense à la sollicitation de la part du FRAC Aquitaine, d'une association de riverains qui habite une barre HLM sur les hauteurs de Bayonne, et à qui on a proposé de réaliser, de sélectionner leurs propres œuvres afin de réaliser le commissariat de l'exposition. Ça, d'une part, donc ouais, c'est ouais. Amener, premier dispositif, et ensuite deux autres dispositifs qui se ressemblent, celui de solliciter des commerçants et de mettre en dépôt, ou en tout cas de proposer à des commerçants et de mettre en dépôt des œuvres chez eux. Et de voir ce que ça génère dans une pratique au quotidien, c'est-à-dire des clients, de la clientèle, voilà, donc de confronter l'art.
Non, c'est normal, il y a quelqu'un qui ferme les portes à côté.
Et dernier process que la manifestation a mis sur pied, c'est l'idée d'un échange auprès de particuliers. De troc, c'est-à-dire le FRAC prête une œuvre.
Ouais.
Contre un discours convaincant et éventuellement un objet
contre un objet pas seulement contre un discours.
Alors est-ce que tout ça une question adressée aussi à Olga Kisleva
comment t'en chie.
Non, mais l'art contemporain et l'action culturelle comme lien social. Voilà, et puis...
La question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut désacraliser l'art?
Non, mais dans cette manifestation de C'est l'été à Bayonne, il y a donc les trois propositions qui sont faites par le FRAC, là, dont vient
oui.
parler Cyril,
oui.
qui font un peu en sorte...
Et la question,
comme ça,
c'est ce qu'on en pense, en fait, de cette démarche.
Bien sûr.
Oui.
Oui, c'est mais ce que vous en pensez.
Moi, je trouve ça génial, je trouve ça génial de permettre à des gens de...
On parlait tout à l'heure d'amener
ça démagogique. Par exemple, ça peut être un point de vue. Non, mais enfin, tout ça.
Oui, bien sûr. Non, moi, je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça très bien. Mais je trouve ça très bien parce que moi, je ne suis pas un artiste. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, exposer des œuvres chez des commerçants, parce que ça peut être... une des possibilités, c'est ça, si j'ai compris.
Oui,
moi, ça me dérange absolument pas, et je trouve ça très bien d'amener l'art aux gens. Par contre, je pense qu'un artiste, il va se poser la question de comment il y a d'éclairer mon œuvre, elle est mal éclairée, elle est machin, elle est truc, etc. Et qu'il y a peu de chance...
beaucoup d'artistes. Qui... de l'artiste.
Ouais, alors, je sens que Olga, elle est en train de bouillir et ça va partir, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que vous pensez, justement? Vous, le FRAC Aquitaine, hein, se propose de questionner un peu la manière dont on peut
les gens peuvent prendre en charge eux-mêmes le patrimoine vivant. Vous, vous parliez de vous poser des questions sur comment le spectateur s'implique dans l'œuvre, est impliqué par l'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de proposition?
Moi, à vrai dire, c'est justement la partie de l'exposition que je préfère. Toute cette partie qui se fait pas dans le musée, mais qui se fait dans l'espace privé chez les gens, ou semi-public, disons, privé chez les commerçants, sur les bars d'HLM. Et je pense que là, c'est aussi peut-être une des réponses possibles à des gens qui ont du mal à s'ouvrir à l'art contemporain, parce que effectivement, l'art, à l'origine, il n'est pas fait pour les musées. Les musées, c'est assez récent. Et on a mis les œuvres d'art anciennes dans les musées parce que les bâtiments pour lesquels elles étaient faites, ou l'espace public pour lequel ça a été fait, ou privé, étaient détruits. Il fallait les garder dans les musées. Et après, les œuvres de l'art contemporain, on a commencé à le mettre directement dans les musées, ce qui n'est pas juste, en fait, pas tout à fait juste. Bon, maintenant, c'est une traduction, comme ça, on les met dans le musée. Mais meilleure place pour une œuvre d'art, c'est être impliqué dans la vie, je pense, directement, que ça soit dans un appartement, chez un collectionneur ou pas collectionneur, une personne qui l'a emprunté au musée basque en échange de son je sais pas quoi, son carafe préféré, ou bien sur un rond-point en plein ville. C'est là où l'œuvre vit vraiment, et c'est là où peut-être on passe 10 secondes devant cette œuvre de temps en temps. Et on ne reste pas planté 15 minutes devant, mais petit à petit, on la comprend et on commence à dialoguer avec elle.
Gaëlle Mocker.
Oui, mais je voulais juste demander à Olga, en fait, si par exemple, on fait cette démarche-là de prendre une œuvre d'art et de la mettre chez un particulier ou de la mettre chez des commerçants, est-ce que l'œuvre, elle ne perd pas son statut d'œuvre d'art? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle ne devient pas juste un objet du quotidien et qu'elle n'a plus, et voilà, ce n'est plus une œuvre d'art, c'est un objet du quotidien?
Je ne vois rien de mauvais dans le fait que l'œuvre d'art devient un objet du quotidien.
D'accord. Moi, ça me pose quand même des questions. Quoi.
Alors, ça vous pose des questions?
Oui.
Bien, comme
quel
conclusion.
Quel intérêt de faire des œuvres d'art si c'est des objets du quotidien qui peuvent être faits par dans des usines? Dans des,
pourquoi pas les multiples faits dans les usines?
Non, je ne sais pas.
Je ferais ça avec plaisir.
C'est une question. Ouais. C'est une question. Je me pose la question de la position de l'œuvre. Enfin, je veux dire, moi, je pense que, en plus, votre position, elle reflète pas la position de beaucoup d'artistes contemporains, a priori, parce que j'en connais quand même quelques-uns et ils tiennent pas du tout le même discours que vous. Donc, pour eux, souvent, donner une œuvre d'art chez des particuliers ou le mettre dans un marché ou le mettre chez des commerçants, c'est juste impensable, quoi. Dans la réalité, c'est
alors,
ça pour moi aujourd'hui. Hein.
Voilà, il va falloir conclure, donc on a compris Gaëlle Mocker.
Et voilà, alors que j'ai commencé à parler d'art contemporain, je devenais fou et tout.
Non, mais justement, conclure peut-être en laissant les choses en suspens, comme on le disait, et ne pas donner de solution et d'explication définitive.
Voilà,
mais on peut vous laisser deux mots pour finir, si vous vouliez répondre à ce que disait Gaëlle. Olga? Non? Oui?
Oui, je pense que la place de l'art est dans la vie, que ça soit une grande pièce monumentale sur la façade d'un musée ou un petit objet fait en grand tirage à l'usine, c'est pareil. Il faut que les gens en profitent.
Très bien, eh bien, nous vous remercions pour avoir participé à ce débat animé et fort intéressant. On remercie. Oui, Cyril, vous voulez dire quelque chose, peut-être?
Que nos deux invités ont des actualités qu'on peut annoncer, d'ores et déjà, sans avoir de précision particulière, mais je pense que la production sur laquelle vous travaillez, dans le cadre du domaine d'Amadia, vous réfléchissez à une exposition au Caribona, justement, donc qui pourrait peut-être succéder c'est l'été. En février prochain, donc voilà. Et pour vous, Gaëlle Mocker, le montage et c'est une phase du travail, mais la diffusion et l'avant-première de une saison sans popcorn, parce que titre du film, donne à la fin, c'est dommage. vous l'avez trouvé.
Ouais.
Et donc l'avant-première.
La sortie est prévue normalement en septembre 2006.
Septembre 2006, ouais. Voilà. Donc d'ores et déjà, voilà, juste ces deux choses-là. Et puis,
Voilà, et bien, ce qu'on voulait faire, hein, ce qu'on tenait à faire, malgré quelques secrets de fabrication dont on ne vous parlera pas, on tenait à remercier la mairie de Bayonne pour nous ouvrir les vannes d'Internet, et puis M. Bilella en particulier, et puis le réseau Joachim, aidez-moi, Média AG. Comment ? Attention, on va entendre la voix de Joachim.
Les serveurs que Mediacité met à notre disposition afin qu'on puisse diffuser sur Internet.
Voilà. Donc, pour le reste, on se retrouve dans Bonne Aventure le 20 juillet prochain avec une programmation faite de stars, Cyril, mais qui reste encore secrète. Vous pourrez la découvrir dans Sud-Ouest et sur France 3. Sur France 3 Pays Basque.
Et une dernière chose, puisque entre-temps, nous ne serons pas là, mais l'actualité, c'est par là qu'on a commencé et c'est par là qu'on terminera. L'actualité de cet été, très prochainement, c'est le samedi 9 juillet, donc à 19h, au cinéma La Talente, dans le cadre de la manifestation C'est l'été. Le FRAC Aquitaine propose une soirée de programmation de vidéos et a sollicité un certain nombre de cinéastes. Pour réaliser des films autour d'œuvres faisant partie de la collection publique du FRAC Aquitaine. C'est donc le samedi 9 juillet à 19h et l'entrée est libre. On s'embrasse.
Bonsoir.
Must have fallen out of a hole in your upright overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Told the soldiers how